Bonjour à tous, bienvenue pour cette cinquième et dernière table ronde thématique avant la dernière table ronde polyphonique qui ouvrira vers d'autres horizons. Donc dernière table ronde qui porte sur les médias, histoire des médias, histoire et médias. Une thématique essentielle au Centre d'histoire culturelle depuis sa fondation, même si, comme on l'a évoqué déjà hier, l'histoire culturelle n'est pas née à Saint-Quentin en Yvelines en 1992, mais l'histoire des médias, il y a, comme l'histoire culturelle en général, il y a trouvé ici un lieu de débat, de discussion, de publication, d'organisation de séminaires qui a permis d'encourager de jeunes chercheurs dans cette direction. Et parmi les initiateurs en France de cette histoire des médias, il faut citer Jean-Noël Jeannet au Centre d'histoire d'histoire de Sciences Po, qui a initié notamment le dictionnaire des médias en 1990 et qui a été un moment important. C'était en 99, hein, en 1999. Cela dit, l'histoire des médias en France est après, en 2003, avec Christian et Fabrice Dalméda. Alors, les médias, donc au Centre d'histoire culturelle, ont donné lieu à de nombreux travaux et des partenariats, qui, notamment avec l'INA et un des professeurs assistants PAST, alors ce que signifie exactement l'acronyme, et Denis Maréchal, qui travaille à l'INA et qui intervient en licence et en master à Saint-Quentin en Yvelines. Alors aujourd'hui, nous allons nous interroger, tenter de faire un bilan de ces 20 ans de recherche au centre, mais nous avons aussi deux intervenantes plus extérieures au Centre d'histoire culturelle pour ouvrir sur des perspectives aussi internationales et des questions également de méthode, car justement l'INA n'existe pas dans tous les pays. Donc, à mes côtés, Christian Delporte, directeur du Centre d'histoire culturelle, professeur d'histoire contemporaine depuis 1999, si je ne me trompe pas, à Saint-Quentin en Yvelines, directeur aussi de la Société pour l'histoire des médias, directeur de rédaction du Temps des médias, et donc qui joue un rôle non négligeable dans l'histoire des médias au centre, et à qui je donnerai tout de suite en premier la parole, car il est sans nul doute donc le mieux placé pour retracer donc ces 20 ans. Des médias au Centre d'histoire culturelle. Anne-Claude Ambroise-Rendu, à ses côtés, maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'Université de Nanterre, hein, qui est membre du Centre d'histoire culturelle, qui a fait partie aussi de ses pionniers du séminaire, je crois, du premier séminaire pour aller jusqu'à Saint-Quentin en Yvelines, de Paris à Saint-Quentin en Yvelines, et qui a travaillé sur les faits divers et le rôle du discours médiatique autour de ces questions de violence, et qui reviendra donc notamment sur ces questions de l'utilisation des médias et de notamment de la presse écrite pour des questions en plus d'histoire sociale notamment. Et donc à mes côtés également Muriel Favre, qui a en fait deux casquettes ici, puisqu'elle est historienne, qui a travaillé qui a soutenu sa thèse en janvier dernier, une thèse d'histoire sur le rôle de la radio sous le Troisième Reich. Le titre exact pourra me le redire exactement.
Pardon. Les radiophonies radiophoniques, les cérémonies radiophoniques du Troisième Reich.
Nous sortons tous du repas. Et donc qui est par ailleurs aussi conservatrice aux archives audiovisuelles à Francfort, en Allemagne. Et ce qui est évidemment pour une historienne assez, sans doute assez intéressant de travailler au cœur même de ce qui est un peu la matière première de notre travail. Et puis Marie-Lisa Merola, qui vient de l'Université de la Sapienza à Rome, qui travaille sur les relations entre politique, société et médias dans l'Italie de l'après-Seconde Guerre mondiale, et qui a travaillé à partir de sources audiovisuelles, radio, télévision, et qui reviendra notamment sur les conditions de travail sur de telles sources hors de France, ce qui n'est pas toujours évident. Je donne tout de suite, comme on est assez nombreux et qu'on va essayer de respecter le temps, je te passe la parole, donc Christian, pour cette histoire.
Oui, Caroline m'a donné 10 minutes. L'histoire des médias, en France, pas plus que l'histoire culturelle, n'est née au centre d'histoire culturelle. Je dirais d'une certaine manière, elle y a prospéré. Désormais, je voudrais évidemment offenser personne, le centre est le seul laboratoire à proposer un séminaire dédié à son étude, à l'inscrire comme une priorité scientifique, à fédérer autour de cette thématique une équipe de chercheurs et de doctorants qui contribuent à son renouvellement. Alors, je ne vais pas entreprendre ici l'histoire de cette spécificité au CHCSC. Je rappellerai seulement qu'en 1996, j'avais créé avec Denis Rebellan et à l'initiative de Pascal Horry, qui me l'avait proposé, un groupe de travail autour de cette thématique à une époque où j'officiais dans une autre université. Groupe de travail qui a débouché à mon arrivée officielle à l'UVSQ en 1999, comme le rappelait Caroline, sur un séminaire d'enseignement et de recherche que j'ai d'abord animé seul, puis avec Marianne Matar-Bonucci, jusqu'à ce qu'elle rallie les terres grenobloises. Je l'ai ensuite piloté avec Caroline Moine, avant que ne nous rejoignent Juliette Aubrin, Anaïs Fléchet et plus récemment encore Denis Maréchal, qui, comme l'a dit aussi Caroline, est professeur associé ici et qu'on connaît bien pour ses activités à l'INA. Et je crois que ce séminaire reste à la fois attractif, nombreux, et je m'en réjouis. Jusqu'en 1996, la notion même d'histoire des médias n'était guère employée. C'est Jean-Noël Jeannet qui, cette année-là, l'a consacré en l'inscrivant comme titre de l'un de ses ouvrages de synthèse à partir d'un cours qu'il avait fait à Sciences Po et qui ne s'appelait pas d'ailleurs à cette époque-là « Histoire des médias ». Les historiens ont été à peu près les derniers parmi les spécialistes des sciences humaines à considérer les médias comme un authentique objet d'observation, alors que depuis longtemps, les journaux étaient devenus des sources ordinaires pour analyser les sociétés contemporaines. Comment expliquer ce phénomène ? Les raisons relèvent sans doute des préventions de l'historien à l'égard d'outils nouveaux, au statut encore incertain, de l'embarras face au son et à l'image, mais plus encore des circonstances dans lesquelles s'est affirmé le champ de recherche qui nous occupe. Des conditions que je voudrais quand même évoquer très brièvement pour comprendre l'esprit des travaux entrepris au centre. Les historiens sont d'abord saisis de la presse écrite pour comprendre le rôle de l'information dans l'espace politique. Et si bien que ce que l'on a appelé l'histoire de la presse, objet de nombreuses études à partir des années 60, s'est bâti dans l'ombre de l'histoire politique. À cette époque, en effet, l'histoire politique se renouvelait en découvrant l'immense chantier de l'opinion publique. Les journaux apparaissaient alors comme les outils massifs qui permettraient peut-être de saisir les comportements collectifs. Faute d'archives écrites, les historiens ont concentré leur attention sur les contenus de la presse, censés révéler les mouvements profonds de l'opinion publique. Les rayons des bibliothèques universitaires se sont couverts d'études monographiques d'intérêt variable et surtout incapables de répondre à une question dont on a finalement mesuré l'incroyable complexité. La presse influence-t-elle l'opinion publique ? En l'absence de réponse impossible à formuler, le flot des recherches sur les journaux a fini par se tarir. Dans les années 80, décomplexé par la percée de l'histoire du temps présent, le questionnement s'est déplacé vers des médias plus contemporains, la radio et la télévision. Les interrogations restaient d'ordre politique. Mais à la problématique des relations entre l'information et l'opinion s'est substituée une autre, liée au contexte spécifique du monopole d'État sur l'audiovisuel, je parle évidemment du cas français, celle du contrôle de l'information par le pouvoir. Grâce aux archives écrites, c'est ainsi construite une histoire institutionnelle de la radio et de la télévision. Longtemps inaccessibles, les archives sonores et audiovisuelles ont ensuite permis de mettre en rapport les premiers résultats obtenus avec les contenus diffusés. Sans la loi de 1992, due à Jean-Noël Jeannet, sur le dépôt légal de l'audiovisuel et ce qui en a découlé, c'est-à-dire en 1995, l'INATEC de France, la radio et la télévision ne seraient pas devenues le principal chantier de l'histoire des médias tel que nous le connaissons aujourd'hui. Parallèlement, un autre mouvement s'est affirmé, relançant les recherches sur la presse. Au fond, les historiens s'étaient pliés à la fatalité. En l'absence d'archives, le journal ne serait jamais qu'une source secondaire pour analyser le politique. Mais en se bornant à isoler le discours et à l'éclairer à la lumière du contexte politique général, est-ce qu'on avait bien posé le problème ? En infléchissant les propositions, en considérant la presse non plus comme une source, mais comme un objet d'étude, en l'étudiant pour ce qu'elle est devenue dans les sociétés contemporaines, c'est-à-dire une industrie culturelle, en cherchant aussi à évaluer son degré d'autonomie dans l'espace public, en l'utilisant aussi, non plus comme un instrument de mesure, mais comme un outil d'analyse des représentations collectives et des imaginaires sociaux, les historiens, à partir des années, dans les années 80, ont ouvert un nouveau chantier, rompant avec les approches que je dirais mécanistes d'autrefois. Pour y parvenir, il a fallu inventer des méthodes, observer des genres jusqu'ici négligés, le dessin, la photographie, la publicité, se mettre en quête d'archives qu'on disait disparues et croiser des sources multiples. L'histoire des moyens d'information s'est ainsi enrichie d'un volet social, une histoire du journalisme et des journalistes, d'un volet économique, une histoire économique des entreprises de presse, et d'un volet culturel, une histoire des genres de la presse comme miroir et reflet des imaginaires sociaux, comme pourra nous le dire sans doute Anne-Claude Ambroise-Rendu. Presse, radio, télévision, la diversité des moyens de communication suffit-elle à définir une histoire des médias ? Ce serait réduire l'évolution historique à une juxtaposition ou une accumulation de vecteurs de messages dont la gamme se serait enrichie depuis le XIXe siècle. Aux médias d'information viendrait s'ajouter l'affiche, la photographie, le cinéma, etc. Jusqu'à l'Internet. Il est vrai que l'histoire des médias semble aujourd'hui, dans la dénomination courante, désigner les médias d'information, pour le plus grand nombre. Une commodité qui, héritée d'un processus historiographique purement français, oublie que la radio et la télévision ont toujours eu pour fonction, certes d'informer, mais aussi de cultiver et de divertir. Les circonstances des recherches ont abouti à un cloisonnement des études, chaque support se dotant de ses spécialistes, de telle sorte, par exemple, que l'histoire du cinéma ou l'histoire de la photographie se sont développées indépendamment de l'histoire de la presse ou de l'histoire de la télévision. Et je pense que c'est d'ailleurs les obstacles techniques d'analyse spécifiques pour chaque vecteur ne sauraient justifier le paysage éclaté. Au milieu des années 90, donc, l'histoire des médias recouvrait, il faut bien le dire, l'histoire des moyens d'information, presse, radio, télévision. Définition trop étroite et que le questionnement culturaliste a permis de reconsidérer. En histoire culturelle, l'objet média est central. Sa principale originalité, c'est son regard tendu vers l'aval des phénomènes, c'est-à-dire la réception. Il ne s'agit pas seulement de bâtir une histoire des pratiques et des publics, mais de réfléchir à la question de la constitution, du fonctionnement, de l'imprégnation sociale d'une culture médiatique, révélatrice d'un système médiatique qu'on ne peut saisir en cloisonnant ces différents éléments, en ignorant les circulations, les croisements, les interactions. Ce qui est particulièrement stimulant dans le concept de culture médiatique, c'est qu'il suppose d'envisager le champ des médias comme un système de représentation nourri par des supports divers, concurrentiels, complémentaires, en constante mutation, bâti à partir de l'écrit, de sons, d'images, et ancré dans la perception du réel comme dans la création fictionnelle. L'histoire des médias est devenue un champ de recherche complexe parce que le système médiatique lui-même, au fil du temps, a gagné en complexité. Ainsi, comment réfléchir sur l'information de ces dernières décennies en isolant la presse de la radio et de la télévision ? Comment vérifier l'hypothèse d'une universalisation des représentations culturelles sans rapprocher les contenus télévisuels de la production cinématographique ? Comment, dans les deux cas, prétendre saisir les circulations en se contentant d'observer des espaces nationaux ? La géométrie mouvante et les jeux d'échelle variables des médias rendent particulièrement rude la tâche de l'historien. S'il peut tirer profit des approches fournies par d'autres sciences humaines, il doit concevoir ses propres outils pour répondre aux exigences de la discipline historique, contextualiser, mettre en perspective, ce que nous avons tenté de faire ici. Très caractéristique à cet égard me semble la manière dont nous avons conçu l'outil de réflexion constitué par notre séminaire de recherche. Un outil tendu vers la question des frontières avec les autres sciences sociales. Un outil de confrontation des méthodes et des questionnements propres aux disciplines. C'est le propre de l'histoire culturelle, me direz-vous. Sauf que les disciplines en question couvrent un éventail considérable et pas forcément le même que dans d'autres secteurs de l'histoire culturelle. Des sciences de l'information et de la communication à l'histoire de l'art, de la littérature à la sociologie, de la science politique aux sciences du langage, et les rencontres scientifiques organisées autour des médias par, organisées par le centre autour de l'histoire des médias en sont l'illustration. En 13 ans, nous avons reçu un peu plus de 300 invités, français et étrangers, jeunes docteurs ou chercheurs confirmés. Or, les historiens n'y sont pas majoritaires. Pour les uns, le média était objet, pour l'autre, il était source. Le dialogue engagé a permis de considérer les médias d'une manière de plus en plus globalisante, notre particularité d'historien s'appliquant à contextualiser, à mettre en perspective naturellement, souvent sur la longue durée. Les mécanismes d'un système de représentation qui se renouvelle et se complexifie au cours du temps nous ont paru des axes de réflexion intéressants. Et ce dialogue a permis aussi, et du coup, de mettre en évidence l'étroitesse d'un regard entravé par le compartimentage des supports et au-delà, les difficultés à définir avec une absolue certitude les médias, les limites d'un sous-champ, l'histoire des médias, n'a guère conforté par l'addition même des supports. L'histoire culturelle, il n'y a aucun doute là-dessus, a régénéré et rafraîchi une histoire des médias qui, sans elle, aurait connu le sort d'une histoire de la presse asséchée par son incapacité à s'interroger sur elle-même. Si les médias restent centraux en histoire culturelle, l'histoire des médias demeure un domaine partagé avec l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire économique, secteurs eux-mêmes renouvelés ces dernières années par les interrogations de l'histoire culturelle. Le dynamisme du questionnement tient à cette position centrale, mais aussi à la définition mouvante et aux frontières incertaines qui caractérise une histoire des médias. Une histoire des médias qui, comme tout champ historique, est appelée à se métamorphoser, à opérer une mue, à nourrir des champs historiques nouveaux. Et comme tout phénomène historiographique, par nature imbriqué dans son époque et alimenté par ses interrogations, on peut imaginer que le questionnement social ou sociétal, sur les effets de la numérisation de l'information, par exemple, pèsera sur la manière de penser ce que nous appelons encore les médias et dont nous contribuons au Centre d'Histoire culturelle, pour notre part, à constituer l'histoire.
Merci beaucoup, Christian, donc pour effectivement avoir posé les différents enjeux des recherches passées et de nos ambitions actuelles au centre entre différents chercheurs qui y travaillent. Et tu as en effet rappelé évidemment le passage ou l'introduction dans le laboratoire de l'historien de l'audiovisuel, des médias audiovisuels après l'installation de la presse écrite. Et je voudrais insister sur le fait aussi que le centre a, dès le début, aussi intégrer le cinéma en histoire, dans ce laboratoire d'histoire et dans ce centre d'histoire. Et on a évoqué hier le premier colloque qui était sur la censure en France à l'ère démocratique. Et le deuxième qui a eu lieu s'intitulait « L'invention d'une culture, histoire de la cinéphilie ». Et il faut évidemment ici évoquer tous les travaux d'Antoine Debecq qui illustrent bien donc, aussi les premiers enjeux de ce centre, comme l'a rappelé aussi Pascal Horry et toi-même hier, avec l'enjeu de histoire et image et qui a été un peu le passage pour Antoine Debecq qui avait travaillé sur la caricature sur la Révolution française, de s'intéresser au cinéma et développer toute une histoire culturelle du cinéma. Et il est revenu en quelque sorte dans la maison mère, pour reprendre l'image de Pascal Horry hier, puisqu'il est maintenant à Nanterre. Et quand on a, comme moi, commencé à vouloir travailler en historienne sur le cinéma dans les années 1990, il y avait un peu deux endroits où on pouvait le faire, à Paris 1, vraiment l'histoire du cinéma un peu plus classique avec Jean Gilly, je m'y suis retrouvée, mais j'avais déjà repéré ce qui se faisait à Saint-Quentin en Yvelines, où avec vraiment l'impression de, c'était un endroit où avec Pascal Horry on osait aussi faire effectivement travailler sur le film, sur le cinéma, plus sur, en s'interrogeant sur ce qui se passait dans les salles, dans la salle, plus que une analyse esthétique du film. Donc voilà, donc pour moi évidemment être ensuite à Saint-Quentin en Yvelines était effectivement une chance importante et le centre continue donc à développer cette dimension-là du cinéma puisqu'on va parler surtout d'autres médias mais je voulais le rappeler avec des travaux notamment sur les producteurs de cinéma, ce qui renvoie à ce que tu fais Jean-Claude et Pascal sur aussi dans le domaine du théâtre et qui croise donc ces enjeux politiques, économiques et sociaux qui sont au cœur des recherches recherche en histoire des médias. Alors pour reprendre donc ces points qui caractérisent l'évolution de ces dernières années des recherches en histoire des médias, je propose peut-être à chacune d'entre vous de nous dire un peu comment vous êtes arrivé à travailler sur vos objets de recherche, en évoquant donc un petit peu les influences et comment, venant d'histoire, justement sur la question des imaginaires sociaux, d'histoire politique, on peut s'intéresser à ces sources nouvelles sur lesquelles vous avez travaillé.
Oui, alors si je, pour essayer de répondre à la sollicitation de Caroline, si j'avais eu à donner un titre à cette espèce de témoignage que je vais livrer, je l'aurais volontiers appelé « Comment je ne fais pas d'histoire des médias ?» Mais après ce que vient de dire Christian, ça me paraît difficile de maintenir ce titre, que je voudrais vous expliquer quand même. Je ne fais pas d'histoire des médias au sens où je ne fais pas une histoire qui utiliserait les médias comme une source parmi d'autres pour attester de la réalité d'un événement ou d'un processus ou d'une opinion. Mais je fais donc une histoire à partir des médias, une histoire des contenus, c'est-à-dire une histoire de la manière dont les médias racontent la vie du monde, la vie des gens telle qu'elle va, telle qu'elle ne va pas aussi d'ailleurs. Et je parlerai volontiers d'ailleurs du bruit culturel que les médias émettent à ce sujet, ce bruit étant à la fois un écho, un miroir, non pas de l'opinion publique, mais des états mouvants et contradictoires de ce que Christian en effet désignait comme étant des imaginaires sociaux, et contribuant évidemment aussi à façonner ces imaginaires et les façonnant en les mettant en scène de manière plus ou moins fidèle. Alors, dans cette perspective, disons, j'ai développé mes interrogations dans trois directions. La première a concerné, comme l'a rappelé Caroline, la presse écrite, et dans laquelle je me suis intéressée aux faits divers. Cette perspective-là, je dois beaucoup à la lecture que j'ai faite d'un ouvrage qui était déjà ancien quand même quand j'ai commencé sur cette question, qui était l'écriture de presse de Violette Morin, qui date de 1969 et qui était un des premiers ouvrages à avoir montré comment on pouvait travailler sur des contenus discursifs, même si évidemment depuis les instruments qui servent à travailler sur ce genre de choses se sont assez profondément renouvelés. Et donc j'ai été attirée pour des raisons diverses et variées qui ne sont pas très importantes par la Belle Époque. Cette Belle Époque est la belle époque de la presse écrite. Et donc j'ai choisi de travailler sur les faits divers. Faits divers qui relèvent à la fois d'événements ponctuels, mais qui relèvent aussi, et c'était ce double aspect qui m'intéressait, évidemment, d'une entreprise de classification et de rubriquage éditorial. Donc le fait divers, en tant qu'il est une production du discours médiatique, avant toute chose. Ces faits divers m'intéressaient aussi parce qu'ils assurent une sorte de jonction entre l'oralité, la rumeur, et l'imprimé, qu'ils empruntent d'ailleurs dans leur configuration de nombreux éléments à la littérature du trottoir dont Jean-Yves parlait ce matin, à la chanson. Donc voilà, des emprunts à une tradition culturelle, mais qu'ils apportent aussi, il me semble, quelque chose d'absolument nouveau au moment où ils se développent, donc dans la presse populaire de la fin du XIXe siècle, puisque j'ai essayé de montrer que... j'ai trouvé... Puis du coup, j'ai essayé de le montrer, qu'ils avaient en quelque sorte servi de matrice à la mise en place, la constitution d'une écriture de presse comme écriture de presse, une écriture d'information. Et puis aussi, faits divers qui m'intéressaient parce qu'ils assurent une certaine diffusion à des questions qui étaient alors qui étaient jusqu'alors inconnues et que donc ils sont un des éléments moteurs de ce qu'on appelle l'acculturation. Alors, c'est dans cette perspective que, par exemple, j'avais répondu à la demande formulée d'ailleurs par Christian au moment du colloque en 2004 sur l'humanité, d'aller voir ce que racontaient les faits divers dans l'humanité, ce qui m'avait valu de la part de Madeleine Ray-Berriou un petit hoquet en disant « Ah oui, il y avait quand même des crimes passionnels à la une dans l'humanité de Jaurès ». Et justement, aller voir dans l'humanité les faits divers, c'était aussi m'apercevoir que, par la tribune des faits divers, par la chronique des faits divers, l'humanité continuait là encore, là aussi, son entreprise de persuasion sociale et politique. Alors, évidemment, je me suis beaucoup intéressée aussi aux formes de la production médiatique, c'est-à-dire aux formes, hein, c'est-à-dire à la question de la mise en page, de la typographie, de l'illustration, l'organisation des unes, des rubriques, etc. Tous ces éléments qui sont donc constitutifs de la mise en scène de l'événement, c'est-à-dire de sa mise en récit ou de sa mise en image. Et au total, je me suis rendu compte que les faits divers n'étaient pas un pur contenu de divertissement, et que la pratique des lecteurs de faits divers n'était pas réductible à une réception aliénante, mais que, au contraire, les faits divers construisaient, étaient partie prenante de la constitution d'une vraie culture médiatique sur laquelle je reviendrai. Alors, je me suis aussi intéressée, mais j'irai peut-être plus vite là-dessus, aux images de presse. Évidemment, à partir des faits divers, c'était tellement tentant d'aller voir les images de cette presse illustrée qui se développe à la fin du XIXe siècle. J'avais d'ailleurs commencé en réalité par interroger le rapport entre le dessin et la photographie de presse au moment où la photographie commence de se développer dans les illustrés puis ensuite où elle apparaît dans les quotidiens. En interrogeant le message iconique, le message plastique, en posant des questions sur la fonction des images, est-ce que ces images de presse qui sont tellement toujours tellement problématique quand même. Est-ce que leur fonction est une fonction d'attestation, d'illustration, de témoignage? Est-ce que c'est purement un argument commercial? Mais aussi sur leur rôle dans le discours proféré par le titre, dans ce qu'ils maîtrisent d'ailleurs, c'est-à-dire l'intention du message dispensé, son organisation délibérée, et puis ce qui lui échappe, alors ce qui lui échappe dans le texte, ce qui lui échappe aussi évidemment dans l'image, ce qui parle dans l'image malgré les intentions hein, de ces auteurs, les transformations aussi du statut, comment une image informative peut devenir une image symbolique, tout ceci qui évidemment est lié à la réception, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Et puis, des faits divers et des images, on en vient assez logiquement au crime. C'est finalement ce sur quoi je me suis, puisque les faits divers, ça n'est pas que du crime, évidemment, je me suis finalement recentrée en quelque sorte sur la criminalité, la violence, telle qu'elle est, là encore, racontée par la presse, en élargissant cette histoire. Alors, bon, pour le dire clairement, j'ai essayé de construire une histoire médiatique de ce qu'on appelle aujourd'hui les abus sexuels sur les mineurs, hein, depuis 1810 jusqu'à 2010. Et donc j'ai été là obligée, en quelque sorte, par moi-même hein, uniquement, obligée d'élargir mes investigations et... c'est-à-dire de confronter le monde des médias, de confronter les discours médiatiques, d'abord entre eux, d'essayer de voir quels étaient les différents discours médiatiques, par quels médias, à quel moment, produits sur le sujet, mais aussi de confronter, bien entendu, ces discours médiatiques à un ensemble d'autres discours, savant le plus souvent, les discours des juristes, les discours des médecins, et ce qui m'a permis d'apercevoir en amont les acteurs qui contribuent à la politique judiciaire, et puis en aval, les groupes divers qui ont réagi à cette politique, qui d'ailleurs ont pu eux-mêmes être producteurs de contenu médiatique, hein, et qui, par ailleurs, par exemple, ont contribué à la définition progressive du terme pédophile. Alors voilà, hein, le terme est lancé. C'est un exemple intéressant parce que ce terme pédophile n'est finalement devenu d'un usage courant qu'à partir, bien entendu, du moment où il s'est inscrit dans le discours médiatique. Il a été utilisé assez précocement par les psychiatres. Très peu, au vrai, hein, il apparaît à la fin du XIXe siècle, il est très peu utilisé, quelques médecins se hasardent de temps en temps à l'utiliser, mais tant qu'il est, il demeure circonscrit à cette sphère médicale, il est absolument inconnu du grand public, et puis c'est l'offensive médiatique des défenseurs de la pédophilie dans les années 1970, donc qui, via la presse écrite, et en l'occurrence essentiellement Libération, place le mot au centre d'un débat, et renouvelle évidemment complètement la question de la criminalité sexuelle sur mineurs, en la désignant d'un autre nom qui... depuis d'ailleurs, a encore changé de sens, hein, parce qu'aujourd'hui, pédophilie, ça ne désigne plus que la criminalité sexuelle sur mineurs. Voilà, donc à partir de cette analyse des circulations entre les différentes sphères d'action et de discours, j'ai pu construire une chronologie assez précise de la manière dont le crime sexuel sur enfants Et les figures qu'il incarne, l'auteur, la victime, ont été traitées, parfois maltraitées, longtemps ignorées, ça c'est sûr, hein, avant de s'imposer dans l'espace public. Et donc, elles se sont imposées par la presse, par la force de la presse, d'une part, dans les années 70, et puis ensuite par la télévision, au moment des, enfin, dans les années 1980. Et ça n'est pas tout à fait innocent, puisque si la télévision impose le sujet, ou si le sujet plutôt s'impose à la télévision dans les années 80, c'est exactement au moment de la dérégulation et au moment où la concurrence entre les chaînes, et les chaînes privées et publiques notamment, montent en puissance. Donc, voilà, c'est finalement ce parcours, hein, qui m'a permis d'apprécier le rôle que donc tous les intervenants dans cette histoire ont pu jouer, dans cette histoire qui, au fond, est devenue une discussion publique, dans laquelle j'ai observé, comme en laboratoire, tous les éléments normatifs, pragmatique, politique, de la constitution d'un espace public et médiatique. Alors évidemment, j'insiste, hein, sur le judiciaire, qui me semble ici particulièrement intéressant, en proportion même des procédures de dénonciation, de justification, de revendication, de disqualification, des polémiques auxquelles il donne lieu. Le judiciaire est donc une arène exceptionnelle en matière de configuration de problèmes publics par les médias. Il me reste un tout petit peu de temps ou pas? Combien? Oui, bon. Voilà, donc il me semble, oui, bon, peu importe, hein. Il me semble que je me suis montrée à moi-même, en tout cas j'ai vérifié, ce qui n'est pas un scoop, vous allez voir que, ce faisant, que les médias ne sont pas simplement des vecteurs, ce ne sont pas simplement des diffuseurs de culture, ce ne sont pas simplement des relais de la culture plus savante, par exemple. Donc, autrement dit, les médias ne sont pas simplement des médias. Ils créent quelque chose de plus. Hein. Ils créent l'espace où, pour reprendre la terminologie de Dominique Volton, cohabitent et s'interpénètrent différentes cultures, cultures savantes, cultures populaires, cultures particulières, pour produire ce que j'appellerais de la culture commune, culture commune, qui est peut-être au vrai la culture médiatique. Et donc je m'arrête là.
Merci beaucoup Anne-Claude. Cela permet en effet de rappeler l'importance justement de cette idée de culture médiatique et comment l'historien, lorsqu'il travaille donc autour sur les médias, se doit donc de déconstruire justement ces différents types de discours médiatiques, avec cette nécessité en effet d'avoir une approche croisée des différents médias, comme tu l'as évoqué, et aussi justement de voir la place de ce discours médiatique face à d'autres discours, comme tu as évoqué, notamment ceux relevant de la médecine, de la justice, etc., différents discours dominants. Donc, et ça, cette question justement un peu de cette culture médiatique, et de voir comment les médias ne sont pas simplement, et bien évidemment, que le reflet des évolutions de société, mais peuvent devenir acteurs et influencer et aider à comprendre les dynamiques sociales à un temps donné. Je pense que c'est au cœur notamment de tes travaux, donc sur l'après 45 en Italie.
Merci. Je veux tout simplement un moment vous remercier pour être ici à célébrer ce centre culturel qui est important pour mes recherches. Je m'excuse pour mon français. J'espère vraiment d'améliorer très tôt. En particulier, j'ai étudié, j'ai fait mon thèse, qui puis est devenue mon première monographie sur la construction de l'identité nationale à l'Italie dans les secondes après-guerre à travers la radio et la télévision d'État, contrôlé par le gouvernement, naturellement. Et donc, j'ai utilisé la célébration du premier centenaire de l'unité nationale en 1961 pour étudier toute la représentation médiatique de l'Italie dans le second après-guerre. Et c'était un moment très important pour l'Italie et un moment dans lequel la classe politique au gouvernement, c'est-à-dire la démocratie chrétienne, qui était le parti de majorité relative, avait beaucoup de problèmes, en effet. Et donc, cet anniversaire, c'était une occasion pour résoudre des problèmes, mais même un défi. Le problème, naturellement, c'était le problème du Vatican. On devait, un parti catholique devait pour la première fois célébrer une nation qui était naturellement construite il y a 100 années con la volonté du Vatican, naturellement. Mais c'est peut-être quelque chose d'ancien. Mais j'ai voulu contrôler à travers les émissions de la radio et de la télévision quelle image de l'Italie la démocratie chrétienne a donné à travers les émissions. Et puis, il y avait un épineux question bien plus récent, c'est-à-dire qui ont sorti de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient dans le plein de la guerre froide. Et donc, on avait un problème avec la mémoire de la résistance. En effet, dans toutes les années 50, on n'avait pas oublié, mais si on va contrôler les émissions, on avait en télévision et en radio totalement née, renouvelée la radio, et née dans 1954 la télévision, avec le but d'être une télévision pédagogique, naturellement. Cependant, on n'avait pas l'histoire, le sujet de l'histoire de la radio et de la télévision dans la seconde après-guerre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des émissions dédiées à l'histoire de l'Italie, de l'unité nationale, mais même de l'histoire récente du fascisme, naturellement, de la résistance. Donc cette célébration, c'était l'occasion pour raconter cette histoire, mais c'est une histoire épineuse, naturellement. Et voilà pourquoi la démocratie chrétienne a décidé de vouloir d'accepter cette défi, parce que c'était un moment, et voilà pourquoi je suis un petit peu, je me concentre sur ce sujet, parce que pour moi, c'est même le point commun d'histoire, médias, société. C'est-à-dire que si la démocratie chrétienne, dans ce moment, décide de diffuser une histoire officielle de la nation, c'est parce que la société italienne, au début des années 60, est en bouleversement. C'est-à-dire qu'il y a une explosion de consommation, de l'américanisation. Donc, pour un parti catholique qui doit gouverner la société de la consommation, c'est nécessaire de trouver un sujet unitaire. Voilà pourquoi c'est un moment de transition politique aussi. C'est-à-dire qu'au niveau gouvernemental, on a décidé d'ouvrir au Parti Socialiste pour gouverner cette société qui est en train de se bouleverser. Donc, donner une imagine, une histoire officielle de la nation à travers la radio, la télévision, c'est même il est utile pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est une imagine officielle. La seconde, c'est que l'occasion pour donner une légitimation au Parti Socialiste. C'est-à-dire que finalement, compter de la résistance à la radio et la télévision, c'est se rappeler de la fondation du second risorgimento. C'est-à-dire de la résistance comme un moment de fondation d'une culture qui peut lier le catholique au socialiste. Donc, vous comprenez comme l'histoire des médias se va à rapprocher à l'histoire politique et à l'histoire de la société. Et j'ai utilisé cette célébration pour, donc, comme en année, naturellement, le 1961, même si j'ai commencé à étudier cette période en commençant dans 1958, plus précisément en 1956, parce que c'est l'année en cui il y a naturellement de grands changements dans le monde communiste et la démocratie chrétienne commence le dialogue avec le Parti Socialiste. Donc, toute la transition vers un gouvernement de centre-gauche, on peut le lire à travers les émissions de la radiodiffusion. Donc, l'histoire officielle de la nation, qui naturellement est rappresentée à travers les trois chaînes de la radio et la première chaîne de la télévision, est très influencée par la transition et la rentrée des socialistes au gouvernement. Et donc, vous comprenez que cet anniversaire, c'est l'occasion pour donner un paradigme commun à l'italien. C'est un paradigme qu'on a conservé pour plusieurs années. Donc, ma thèse, c'était ça, de démontrer comme les niveaux peuvent se croiser. Puis je suis avancée peut-être avec mes études. J'ai laissé la radio, la télévision dans ces points de vue et j'ai commencé à étudier la guerre froide culturelle, c'est-à-dire que je suis naturellement très fascinée par les médias, les relations entre histoire politique, histoire des médias et histoire de la société. Mais je voulais quelque chose en plus, je pensais à l'histoire militaire. Donc, je me suis concentrée sur cette année, naturellement, mais j'ai étudié comment l'américanisation rentrait dans tout ce discours. Donc, en Italie, on a une culture catholique, une culture social-communiste, naturellement, très fort, mais on était naturellement dans le contexte américain de la guerre froide, même si on a un parti socialiste, un parti communiste très, très fort pendant les années 50 et 60, et donc, mais on, même en culture américaine. Et ce qui est vraiment très frappant, c'est que la démocratie chrétienne, un parti catholique, et qui a des problèmes avec la modernisation, naturellement, était si préoccupé, naturellement, j'ai documenté avec tous les documents officiels, les archives d'État, de ce changement, de ce bouleversement d'une société qui semblait totalement pris par la consommation, la musique, le rock and roll, mais même toutes les choses, que la mobilisation de masse, les voitures, l'autoroute. Et donc, c'était un pays, une société qui voulait totalement pas plus rappeler les souffrances d'une dictature et d'une seconde guerre mondiale et de la résistance en guerre civile, naturellement, qui avait construit sa identité nationale dans les partis, dans la culture catholique ou social-communiste. Maintenant, voilà pourquoi la classe politique au gouvernement, mais même l'opposition, était si préoccupée par la modernisation qui décide de la guider. Pas de la rejeter, mais de faire un Italian Way de toutes les choses. Italian Way, la télévision, j'ai écrit ma dernière monographie, Italian Way au rock and roll Italian Way. Donc, pas bloquer, pas arrêter la modernisation, mais le faire dans une vision totalement catholique, guidée. J'utiliserai un symbole de ça, que c'est la chanson, les chansons noires du rock and roll, par exemple, Stand By Me, c'est une chanson noire, naturellement, Benny King, devient en Italie, Adriano Celentano, pregherò, I will pray, je prierai. Donc, c'est le symbole de cette version catholique de la modernisation. Et c'est vraiment très intéressant que les cultures locaux se sont totalement oubliées. Donc, on ne va pas à toutes les chansons locales parce qu'ils rappellent le lutte contadine. Donc, on veut tout oublier. Il y a une américanisation à l'italienne. Et si j'ai étudié ça dans ce contexte de la guerre froide, naturellement. Et de la construction de l'installation de la base de l'OTAN à Naples. En effet, on a en Italie la base principale de l'UFSAUT, donc de tous les pays qui sont dans le sud de l'Europe. Et en effet, on a eu déjà l'américanisation très forte avec la lutte de libération, naturellement. Mais puis, dans 1954, à Naples, un petit Amérique se va installer. Donc, naturalement, il y a la guerre froide culturelle et naturalement, la musique, comme déjà pendant la libération, a été utilisée comme pour rendre pour le moral des militaires, mais même pour faire arriver le sens de la liberté et de la démocratie. Et c'était le jazz. Donc, j'ai étudié comme dans la seconde après-guerre, avec le jazz dans la ville de Naples, mais autour de l'Italie. Ce n'est pas seulement la musique de propagande, de Goodwill Ambassador. Ce n'est pas seulement mon expression, je cite les documents américains que j'ai trouvés dans la base napolitaine. J'ai trouvé, et si je peux dire, ce n'est pas une archive, je l'ai trouvé pour un souvenir personnel, tout l'archive qui était totalement oublié dans les caves de la base de l'OTAN, heureusement était complète. Et donc, c'était l'expression Goodwill Ambassador. Et c'était, il disait naturellement che les marines, les soldats américains, c'était des ambassadeurs civils d'amusement. Naturalement, la population civile voulait oublier les souffrances. L'américanisation devait devenir quelque chose de positif, d'amusant. Voilà pourquoi la musique était très utilisée. Il y avait le tour de jazz dans la Méditerranée, de la 60 Fleet Band, la band de la de la flotte de Méditerranée. Et qu'est-ce que j'étudiais qu'est-ce que j'étudiais? Parce que j'aime les contradictions et les ambivalences. Et voilà, je pense que c'est ça l'histoire des médias. Qui, avec la musique de propagande, ce qui arrive, c'est la révolution de jeunes. Parce que la musique qui arrive à Naples, ce n'est pas la musique américaine qui arrive à travers les chaînes de la radio censurées par la démocratie chrétienne. C'est la musique sans filtre et censure. Et j'ai pu éprouver ça à travers les journaux américains à Naples. En effet, les Américains, la première chose qu'ils ont tenté dans toutes les façons à faire, c'était un rodeo américain à Naples. Ce n'était pas possible à cause de le monopole du gouvernement. Mais puis, on a trouvé une solution. Et en effet, les Américains avaient, dans la région du Naples, un espace à eux, une émission qui s'appelait Good Morning from Naples, que j'espère que ce sera mon futur travail, et à travers lequel on avait toutes les émissions américaines directement par l'Amérique, en particulier le rock and roll, que je rappelle, c'est la musique de noir, de la contestation, ce n'est pas la musique officielle de l'Amérique superpuissance internationale. Donc voilà pourquoi c'était pour moi une preuve de toutes les contradictions, l'ambivalence, même cette autre propagande, ou musique, ou image officielle, que, cette fois pas du gouvernement, mais de l'Amérique, a la conséquence de porter avec soi des contradictions, parce qu'en exportant la musique officielle, qu'est-ce qu'il arrivait? C'est la musique de la Révolution, pas Preghero di Ariano Celentano, ma la musique noire qui arrivait dans les tissus citoyens des Napolitains.
Merci beaucoup pour ces deux grands chantiers que tu as menés de recherche, où l'on voit évidemment toute la complexité, effectivement, dès que l'on quitte juste l'étude juste d'un média, voir la circulation d'un média, évidemment tout l'enjeu de la réception, évoqué déjà par Christian et Anne-Claude, sur lequel nous reviendrons, et cette dimension aussi évidemment d'histoire politique et de toute la question dans la propagande et les médias, qui est un champ, tout un aspect évidemment de l'histoire des médias essentiels et qui...